Bonjour à tous et bienvenue dans ce Protelcast saison 2 épisode 3. Je suis en compagnie aujourd'hui de Sylvie.
Bonjour à tous.
De Romain.
Bonjour à toutes et à tous.
Et de Stéphane.
Bonjour à tous.
Alors comme vous avez pu le constater, nous n'avons malheureusement pas eu le temps de vous faire un Protelcast le mois dernier. Donc programme un peu chargé pour celui-ci, vu que nous allons du coup couvrir les réunions de février et de mars. On commence tout de suite avec la réunion du mois de février, avec un point sur les accidents de travail qui étaient portés donc par Romain, qui est à la commission santé-sécurité.
Donc pour les accidents de travail, on a fait un état de tout ce qui s'était passé les deux derniers mois depuis qu'on est élu en fait. On s'est aperçu qu'il y avait quand même pas mal d'accidents de travail par rapport à cette courte période, parce que d'habitude il y en a quand même moins dans les chiffres. On a bien fait la différence entre les accidents de travail lors des trajets et lorsqu'on travaille, puisque vous savez que quand vous allez au travail ou quand vous repartez du travail, tant que vous êtes sur le trajet pour aller chez vous ou pour partir de chez vous, c'est un accident de travail. On a insisté sur le fait qu'il fallait bien les déclarer parce que ça a aperçu en regardant tout ça que parfois des accidents de travail n'étaient pas déclarés, même anodins. Hein. Je prends un exemple, quelqu'un qui est un petit peu agressé, qui va en rendez-vous et qui est agressé, mais il s'en sort, il est indemne, il a pas de dégâts physiques, on va dire, et puis il ne le déclare pas en accident de travail, puisque le lendemain, il peut retourner travailler, bref. Et puis il s'aperçoit 2-3 mois après qu'il est vraiment pas bien, puisqu'il a quand même subi un choc psychologique et retourner dans cet endroit-là ou dans ce type d'endroit-là, ça lui pose problème. Il ne se sent pas bien et derrière, ça peut engendrer des soucis. Donc, on a insisté vraiment sur le fait que les responsables doivent vraiment faire tout pour déclarer un accident de travail lorsqu'ils sont au courant de quelque chose comme ça. Il n'y a rien d'anodin. Et pareil, hein, on vous le dit aussi à vous, salariés, ne pensez pas, même si vous faites un peu mal à la cheville ou quelque chose qui paraît anodin, on ne sait jamais les suites que ça peut avoir au niveau médical, que ce soit psychologique ou physique. Donc, n'hésitez pas à toujours déclarer un accident de travail. De toute façon, ça ne porte pas préjudice. On peut déclarer un accident de travail sans qu'il n'y ait rien derrière. Si tout va bien, si voilà, ce n'est pas un problème. Mais s'il y a quelque chose, au moins, vous avez quelque chose. Enfin, vous avez une déclaration qui vous permet d'avoir des suites. Voilà. Et puis, on a aussi parlé dans tout ça du document qui référencie les risques liés à l'entreprise et comment... alors, dans ce document, il y a tous les risques qu'on peut trouver dans notre métier et comment y parer. Qu'est-ce qu'on doit faire pour minimiser ou éviter ces risques? On a notamment parlé pour ça des conditions climatiques avec le verglas, parce qu'on s'est aperçu qu'avec le verglas, il y avait peu de choses qui avaient été faites. Il y avait des gens qui n'étaient même pas au courant, qui pouvaient prendre une journée de congé pour éviter d'aller... prendre des risques sur la route, ou alors on a même eu des responsables ou des CT, qui ont augmenté le secteur par exemple, il a rajouté des TDP ou lui a fait faire une tournée TDP à un technicien, alors que ce jour-là, il y avait du verglas sur le secteur et que c'était plutôt l'inverse qu'il fallait faire, c'est-à-dire réduire le nombre de kilomètres à parcourir en modifiant un peu le planning vis-à-vis des rendez-vous. Alors, il y en a chez qui ça s'est très bien passé, il y en a d'autres, ça s'est plutôt mal passé. Il y a eu quand même des petits accidents de voiture, rien de grave, heureusement, mais on s'est aperçu que voilà, c'était pas forcément très, très carré. On a demandé justement à ce que ce soit modifié pour être mieux pris en compte, qu'on puisse resectoriser au mieux lorsqu'il y a du verglas pour éviter les risques, et puis que quand il y a un problème climatique comme verglas, que tout le monde soit bien au courant de ce problème et qu'est-ce qu'on peut faire derrière par rapport à ça. Voilà, c'est à peu près tout ce que j'ai à dire là-dessus.
Oui, alors moi, je voulais aussi signaler qu'il y avait eu la nomination d'un chargé HSE qui a enfin été nommé. Et du coup, on va avoir quand même un interlocuteur, en tout cas le CSCT, c'est-à-dire ceux qui s'occupent de la sécurité santé au travail. On va avoir un interlocuteur avec qui pouvoir parler. Quelqu'un que vous devriez peut-être voir aussi au niveau de vos postes de travail, puisqu'il est censé quand même faire le tour des hubs. Et donc, c'est quelqu'un qui est là pour analyser les risques professionnels et observer un petit peu vos conditions de travail. Donc, je trouve que c'est plutôt un plus.
Merci, Sylvie. Donc, suite à cela, nous sommes revenus sur le point des travailleurs isolés, donc des personnes qui se retrouvent à travailler pendant plusieurs heures seules dans leur free proxy. Et de qu'est-ce qui est mis en place aujourd'hui pour éviter du coup qu'il n'arrive des problèmes à ces personnes qui sont seules. Stéphane, tu peux peut-être nous en dire quelques mots.
Bah, concrètement, il y avait deux façons de voir l'approche. Soit on essayait de faire quelque chose pour quand réellement une personne était seule dans un free proxy. Donc on rappelle, hein, un travailleur isolé, c'est quelqu'un qui n'est ni visible de l'extérieur, ni entendable, et donc il n'y a pas de passage de personne humaine. Donc on tend plutôt à demander à ce que deux personnes minimum soient présentes sur le site, ce qui évite d'avoir des personnes isolées et de mettre tout un système en place dont on ne connaît pas encore la fiabilité, même si c'est normalisé et ainsi de suite. La deuxième piste que l'on pourrait avoir, c'est effectivement repartir de l'outil qui nous avait été mis pour les techniciens itinérants qui avaient la même problématique dans les tests de position sur certains sites qui étaient isolés sans passage. Et donc, du coup, de transposer le système pour les techniciens qui seraient par cas de force majeure, exemple, une absence imprévue et deux étaient prévus, il n'en reste plus qu'un, afin d'avoir une sécurité supplémentaire. Donc, on ne voudrait pas que ça tende ou que ce soit interprété comme du flicage. Donc, je pense qu'effectivement, y a un compromis à avoir entre la sécurité et la surveillance, mais les deux étant communes pour une personne seule. Voilà ce que je pouvais dire sur le sujet.
Le point suivant était la nouvelle grille de primes qui était présente, la nouvelle grille de primes pour les coordinateurs de proxy, qui a été donc présentée au CSE. Qui incluait donc des changements dans le même sens en fait que ceux de la grille de primes des techniciens conseils du coup qui avait été présenté le mois précédent, notamment du coup pour rééquilibrer la partie délai de réponse avec celle des techniciens conseils et pareil pour ce qui est des ventes. Nous, il y avait certains points qui nous gênaient, notamment on trouve toujours que sur cette grille-là, il y a une partie qui est trop laissée au bon vouloir du responsable. Et également, on trouve qu'il y a toujours un manque d'accompagnement en fait, qui est de l'entreprise pour permettre l'atteinte de ses objectifs et des objectifs qui sont de toute façon inatteignables. Parce que là, par exemple, il y a un objectif pour les coordinateurs qui est d'atteindre 96% de 7 clics sur un mois. Aujourd'hui, sur les 6 derniers mois, aucun hub n'a atteint cet objectif-là. Donc ça ne nous semble pas pertinent de mettre dans une grille de primes un objectif inatteignable. Néanmoins, il y avait quand même des points positifs sur ce rééquilibrage avec les techniciens conseils et des points positifs. Donc notre point de vue était donc, de nous abstenir, ce qui a été fait par les élus CGT. Et donc au final, l'avis d'une CSE a été négatif. Et après, la direction garde toujours le droit de l'appliquer si bon lui semble. Donc suite à ça, nous avons reparlé donc de la plateforme Glady, parce que notre contrat arrive à son terme avec cette plateforme, et donc il devait y avoir une décision de prise par le CSE de si nous poursuivions ou pas avec Glady. Stéphane, tu vas nous expliquer ça.
Donc oui, concrètement, nous sommes avec Glady depuis le début de Protelco, et donc nous fonctionnons, donc à l'époque ça s'appelait WeDoGift. Donc il avait été demandé par certains élus de faire une recherche de nouveaux prestataires pour mettre en concurrence Glady. Donc c'est quelque chose qui nous avait été communiqué en décembre après les élections. Nous n'étions pas forcément contre l'idée. L'idée étant de trouver un prestataire aussi bon que ce que nous avons actuellement, c'est-à-dire dans le fonctionnement, dans les offres proposées et surtout dans les coûts. Cette proposition devait être faite donc le même jour que la présentation faite par Glady de où ils en étaient par rapport aux offres, ce que les salariés avaient pu bénéficier et ainsi de suite. Alors, il s'est avéré que la personne qui avait soumis l'idée de présenter des devis ne nous avait rien envoyé en amont, mais n'avait qu'un devis à nous proposer le jour de la réunion. Et ce devis était quasiment entre 30 et 40% plus cher que ce que nous proposait, en fait, dans les faits, Glady, en renouvellement de contrat. Donc, concrètement, il avait été mis à l'ordre du jour la résiliation du contrat avec Glady à la suite de ces présentations. Le CSE a refusé une résiliation du contrat de Glady et donc, du coup, une proposition écrite de renouvellement de contrat pour que les 4 prochaines années, la durée de notre mandat CSE, nous a été faite et nous a été présentée donc pour la réunion du mois de mars. Donc on en reparlera tout à l'heure pour ne pas dissocier les deux réunions. Mais je pense qu'effectivement, à aujourd'hui, les prestataires concurrents de Glady ne sont pas en mesure de proposer le tarif extrêmement bas qui nous est fait spécifiquement à nous, de par notre ancienneté, et d'obtenir des avantages qui permettent d'avoir, pour les salariés, des remises qui soient supérieures comparées au coût des services que le CSE paie pour les avoir.
Et puis, c'est aussi sans compter sur la difficulté technique de changer de prestataire, parce qu'il y a beaucoup de choses aujourd'hui qui passent par Glady au niveau de la gestion des comptes, auxquels du coup les élus sont habitués, et donc un changement impliquerait nécessairement beaucoup de travail de notre part, et surtout un temps d'adaptation qui pourrait ralentir les prises en charge des prestations qu'on fournit aux salariés.
Oui, et à noter quand même que le salarié, enfin l'élu qui devait faire les recherches de devis, les présenter, etc., n'était pas un élu CGT, hein, parce que c'est voilà, il faut le dire quand même. On a eu vraiment un devis très succinct, on ne savait pas exactement ce qui était fait par l'autre société.
Oui, et puis l'important aussi, c'est que les salariés ne se retrouvent pas pendant des semaines à plus rien avoir parce qu'on met en place quelque chose qu'on ne maîtrise pas, qu'on n'a pas réfléchi avant, etc. Donc là, on sait que les salariés vont de plus en plus sur Glady et ils en sont quand même majoritairement assez satisfaits. Donc, ça n'apportait rien de plus, et, si ce n'est que des embrouilles.
Ce qu'il faut aussi dire, que dans la présentation, il y avait énormément de choses qui étaient assez bien détaillées, faites par Glady. Il y a quand même énormément de salariés qui ont profité des avantages encore méconnus, parce qu'on n'a pas assez communiqué les 4 dernières années sur ces bons plans, comme ils les appellent, et qui quand même ont pu en moyenne faire bénéficier de remises assez importantes au global aux salariés, sans que cela ait un coût pour le CSE. Donc c'est quand même relativement intéressant dans la pratique. Le tout, c'est qu'on communique un petit peu mieux pour que vous soyez mieux au courant, mais ça, on en parlera sur le mois de mars.
Exactement. Petite nouveauté sur cette nouvelle mandature, c'est que notre nouveau trésorier nous fait un point tous les mois sur les finances du CSE. Je vous le mentionne une fois ici, mais on n'en reparlera pas à chaque fois. Voilà, sachez qu'en tout cas, depuis le changement de trésorier, nous avons un suivi beaucoup plus clair des comptes du CSE.
Vous retrouverez le détail, bien sûr, dans le PV quand il sera validé et mis en ligne sur le site de Glady. Justement, donc le site internet du CSE, et non pas le site où vous commandez vos chèques cinéma. Et vous aurez bien le détail qui sera annexé au PV.
Et enfin, dernier point abordé sur l'ordre du jour des attributions du CSE. C'était donc un groupe de travail qui a été donc créé par certains élus pour gérer la partie du coup des offres fournies par le CSE aux salariés. Vas-y Stéphane.
Oui, donc on a fait un petit point par rapport à cette création de groupe qui avait été faite sur janvier. Alors, il a été décidé plusieurs choses qui sont toutes à destination des salariés, bien sûr. Comme je disais tout à l'heure, on va essayer de mieux communiquer et de façon plus efficace pour vous informer sur le fonctionnement, puisqu'on a constaté que beaucoup de gens ne savaient pas utiliser certains avantages. Donc, on a décidé de faire une lettre d'information toutes les semaines afin de faire un zoom sur l'utilisation de certaines fonctionnalités de Glady. Et nous allons continuer à produire la lettre d'information mensuelle qui sera envoyée par mail sur la mailing list diffusion, donc par la direction, afin d'inviter tous les nouveaux qui ne sont pas encore inscrits sur Glady de pouvoir l'être, ce qui leur permettra de bien recevoir les flashs d'informations que l'on va faire toutes les semaines. Voilà, c'était surtout ça, les deux principales informations que je voulais communiquer.
Parfait, merci Stéphane. Voilà qui conclut donc l'ordre du jour. Suite à ça, il y avait évidemment les réclamations individuelles et collectives. Donc comme d'habitude, on ne va pas vous faire une liste exhaustive de ce qui a été dit. Le détail sera disponible dans l'ordre du jour, dans le procès-verbal qui va être posté le mois prochain, une fois que celui-ci aura été validé. Romain voulait juste dire deux mots sur deux des points en question.
Oui, je voulais parler pour les rétablissements parce que ça a été demandé par pas mal de techniciens, savoir si vous savez quand vous faites un TDP et que vous rétablissez derrière si la prime était toujours comptée. Donc oui, il nous a été répondu qu'elle était toujours comptée. Voilà, c'est en plus des primes des 400 euros, enfin les 400 euros que vous pouvez avoir sur le nombre de rendez-vous et la satisfaction client. Donc c'est positif. Et puis je voulais aussi parler des rendez-vous en zone sensible où on a encore remis une couche entre guillemets, c'est-à-dire qu'on s'aperçoit encore qu'on a des rendez-vous en zone sensible en début d'après-midi, parce que vous avez par exemple un créneau 11-13, vous avez un rendez-vous en zone sensible en 11-13, mais comme vous avez deux 10-12 qui sont un petit peu éloignés, le temps d'arriver au 11-13, il est souvent parfois midi, midi moins 10, midi et demi, ce qui pose problème puisqu'évidemment dans les zones sensibles, si on a mis ce créneau-là, c'est pour éviter de croiser des loulous entre guillemets on va dire, et qu'à midi certains rentrent manger chez eux ou commencent à traîner devant les endroits où il faut pas, et c'est quand même source d'inquiétude pour nous puisqu'il y a déjà eu des agressions par le passé. Donc voilà, on a remis une couche là-dessus et on vous incite, vous en tant que salarié, si jamais vous devez faire un rendez-vous en zone sensible après l'heure de midi ou même autour des heures de midi, de pas hésiter à appeler votre supervision si vous le sentez pas, ne vous mettez pas en danger pour rien.
Non, moi, je veux juste rajouter un petit truc sur le fait que la prime, que le rétablissement après un TDP, la prime est toujours, enfin que cette action est toujours primée. Et, y a eu un petit bug. A priori, il y a eu quelques salariés qui n'ont pas eu cette prime. Alors, je me souviens plus du mois de décembre, janvier, je crois. En tout cas, ça a été remonté au RH qui normalement doivent rectifier le tir et vous devriez retrouver cette prime. Sur le salaire suivant. Alors, comme je ne me souviens plus du mois, je ne veux pas dire de bêtises, mais en tout cas, tout sera correctement rétabli au niveau de votre salaire, enfin, au niveau de ces primes sur votre salaire.
Merci Sylvie. Voilà donc pour cette réunion de février. Un dernier point qu'on peut quand même aborder, même si la réponse a de façon déjà été donnée par la direction sur Workplace, c'est que pas mal d'entre vous étiez revenus vers nous par rapport à la prime de partage de valeur. Donc appelé erronément prime Macron, qui donc n'était pas distribuée cette année. Beaucoup de nos gens demandaient s'il y avait une confirmation du fait qu'elle ne serait pas distribuée. Effectivement, la direction nous a reconfirmé qu'elle ne serait pas proposée cette année, étant donné que les conditions fiscales de sa distribution ne sont plus satisfaisantes pour l'entreprise. Ce qui ne veut pas dire que l'entreprise ne fera rien financièrement pour les salariés, et on va y revenir tout de suite. Nous allons passer maintenant sur la réunion du mois de mars, qui a donc eu lieu hier, avec pour premier point une consultation à nouveau sur de modification de grille de prime des techniciens conseils, cette fois pour une modification assez mineure concernant la vente additionnelle, modification qui, à première vue, est assez positive. Je ne peux pas trop vous en donner le détail pour l'instant, mais donc vous le connaîtrez assez rapidement. Néanmoins, nous estimons qu'il y avait assez peu de propositions d'accompagnement pour la mise en place de ces changements qui étaient proposés par l'entreprise, et nous restons en désaccord avec une partie de la grille de primes que nous demandions de valider, partie qui avait été débattue donc en janvier. Nous avons donc, nous, fait le choix du CGT de nous abstenir de nouveau sur cette consultation. Et le résultat donc de la consultation auprès du CSE a été un avis positif rendu par les élus.
Donc, pour compléter ce que vient de dire Luc, en fait, ce n'est pas vraiment les moyens mis au service des salariés pour obtenir cette nouvelle modification de grille, puisqu'elle s'effectue hors part variable, c'est en complément de la part variable. C'est juste que la temporalité entre les formations qui sont mises en place et le fait que les techniciens conseils soient en vitesse de croisière, si on peut appeler ça comme ça, c'est-à-dire soient efficaces sur ce point-là, est trop court. C'est-à-dire qu'en gros, on n'attend pas que les techniciens soient efficaces et on met déjà le système de part variable et de système de rémunération en place. C'est surtout par rapport à ça, c'est le décalage qu'il y a entre les deux.
Exactement. Et d'ailleurs, il y avait également une consultation de modification de la grille de prime, cette fois des techniciens itinérants rattachés au proxy. Le changement était du même ordre que celle des techniciens conseils, donc le débat a été fait sur les deux en même temps, et les avis ont été les mêmes, c'est-à-dire que nous sommes également abstenus sur cette consultation-ci, et que le CSE a tout de même rendu un avis positif. Donc ensuite, nous devions avoir un point sur les orientations stratégiques de l'entreprise pour l'année. Ce point a malheureusement été de nouveau reporté, car au niveau du groupe, du retard a été pris suite à plusieurs changements au niveau de la direction des ressources humaines du groupe. Donc mais pour l'instant, le point est à nouveau reporté et devrait, a priori, nous être présenté en avril. Et donc arrive ensuite le point Up to Bond, dont vous avez été de toute façon déjà été informé par mail, mais dont Sylvie va pouvoir nous parler également.
Oui, alors effectivement, on a eu la présentation du dispositif Up to Bond, qui va permettre en fait à tous les salariés ayant quand même il faut quand même qu'ils aient une ancienneté de 3 mois, donc de permettre à tous les salariés d'avoir la possibilité de placer l'intéressement et la participation de cette année dans des obligations en fait qui appartiennent des obligations du groupe Iliad. Ils pourront même investir des fonds propres à hauteur de 25% du brut annuel de 2024. Donc il faudra un petit peu voir un petit peu faire le point de ce que vous allez avoir en 2024 et pouvoir verser donc ces 25% bruts. Maintenant, il faut savoir qu'il y aura 6% d'intérêt annuel et que l'argent sera bloqué 5 ans. Il y a un abondement qui est fait de 300% sur une somme maximum de 200 euros. Alors, ce qui devrait rapporter dans les 5 ans 800 euros, si je ne me trompe pas. C'est assez intéressant dans la mesure où vous allez, pour ceux qui ont peu, pouvoir quand même placer et avoir un taux d'intérêt qui est nettement supérieur à ce qu'on peut trouver à l'extérieur. Et donc ça peut être plutôt donc intéressant parce qu'avec ne serait-ce que 200 euros, de gagner presque 800 euros dans les 5 ans qui vont suivre.
Alors, pour donner un exemple simple, pour résumer ce que Sylvie vient de nous dire, si par exemple, avec la proposition qui est faite, on investit 200 euros, vous aurez un abondement, donc une part qui vous est versée directement par le groupe, en plus de vos 200 euros, de 600 euros brut, ce qui va vous faire 541 euros net, avec votre apport, ce qui fait que réellement, d'investir en obligations, donc sur ce nouveau fonds qui sont des obligations, vous aurez 741 euros de comptabilisés. Au bout des 5 ans, vous aurez environ 237 euros de plus grâce aux 6% d'intérêt annuel que vous avez, ce qui vous fera une somme totale de 978 euros. On vous rappelle, pour les 200 euros que vous avez investis. Donc, il est clair, net et précis qu'en 2029, vous aurez fait un très bon placement puisque ça représentera à peu près 389% d'augmentation par rapport à votre mise de départ. Ce qu'il faut savoir, c'est que tous ces chiffres sont donnés par rapport aux données fiscales connues de 2024 et que pour ce qui est du versement, ça, il n'y a pas de doute, ça ne va pas changer dans le mois qui vient. Par contre, pour les conditions de sortie sur le placement, donc intéressement, participation, donc le plan d'épargne groupe sur lequel est versé l'argent, on les connaîtra qu'en 2029 selon les décisions gouvernementales de l'époque. Donc c'était à peu près les choses les plus claires qu'on pouvait donner parce que c'est assez complexe en termes de, comment dire, de montage. On ne va pas vous embêter avec ça. Tout ce qu'on peut dire en précision, et c'est pour moi les choses les plus importantes, c'est que, comme elle le parlait tout à l'heure, il faut une ancienneté minimum, donc 3 mois d'ancienneté, et que la source d'approvisionnement que vous pouvez placer en argent est multiple et variée. Tout à l'heure, Sylvie a parlé de l'intéressement et de la participation, mais pas que. On peut faire un versement volontaire, c'est-à-dire tout simplement un virement de votre compte bancaire sur ce fonds-là pour avoir ces 200 euros. Ça s'adresse surtout aux personnes qui ont que 3 mois d'ancienneté et qui, bien sûr, n'auront ni participation ni intéressement. Ça peut être des avoirs qui sont disponibles dans votre plan d'épargne groupe, qui sont arrivés à terme et que vous souhaitez réinvestir pour 5 ans et donc, du coup, les bénéficier des 6% d'intérêt. Donc ça, c'est possible de les transférer aussi. Et vous pouvez aussi avoir comme source tous les avoirs qui sont là, eux, non disponibles, donc encore bloqués, et qui pourront être changer de fonds, en fait, du fonds souvent de fois monétaire actuel, être transféré sur le fonds le nouvellement créé, donc en action. Donc en obligation, et donc du coup ça permet d'avoir en plus des 25% des revenus prévisibles de 2024, votre intéressement et votre participation s'additionnent aux 25%. Elles ne sont pas incluses dans les 25%, puisque la participation et l'intéressement n'est pas comptabilisé comme revenu de 2024. Donc voilà ce qu'on pouvait dire sur ce sujet. Je ne sais pas si Luc, tu avais une chose complémentaire à donner.
Si, moi, c'est plus du... Il y a des conversations que j'ai pu avoir déjà avec des collègues à ce sujet, parce que certains d'entre eux, donc effectivement, tout le monde comprend bien l'intérêt de mettre au moins 200 euros, parce que bah, ça donne le 600 euros d'amendement. Mais pour beaucoup, en fait, du coup, le reste le reste de leur intéressement et leur participation, ils ne voient pas trop l'intérêt de l'investir, parce que sur les présentations, en fait, on voit que plus on met d'argent, ça donne l'impression que moins on va en gagner à la fin. Parce que du coup, l'abondement, il ne concerne que 600 euros. Mais ce qu'il faut bien se poser comme question, c'est en fait, cet argent-là, si vous ne le placez pas dessus, qu'est-ce que vous allez en faire? Si vous avez besoin d'argent, effectivement, tout de suite, parce que vous avez des achats à faire, des dettes à rembourser, je ne sais quoi, effectivement, mais évidemment, sortez-le l'argent. Mais si vous le sortez pour aller le mettre après sur un livret A sur lequel vous n'allez pas le toucher pendant 5 ans, ça n'a vraiment aucun intérêt de le sortir. Il faut vraiment se dire que 6% d'intérêt par an, c'est dans le marché actuel des placements, c'est quand même très intéressant. D'autant plus que c'est un placement qui est quasiment sans risque, puisque le seul risque qu'il y a dessus, ce serait que le groupe Iliad fasse défaut, et on est très loin de cette situation financière-là. Donc moi, si le conseil que je peux vous donner, c'est si cet argent-là, vous n'en avez pas besoin tout de suite, placez-le. Et si à un moment vous en avez besoin pour des cas très particuliers d'achat de maison, de construction, de naissance d'enfants, de mariage, cet argent-là, vous pourrez le sortir de toute façon, c'est dans les conditions pour le sortir. Voilà, pour ce qui était du point suivant, nous demandions des informations sur l'organisation du travail qui était prévu pendant la période des Jeux Olympiques. Donc Sylvie, c'est toi qui t'y étais intéressée.
J'ai demandé que la direction, effectivement, s'attelle à cette problématique au vu de ce qui est annoncé un petit peu partout concernant les problématiques de déplacement, de zones bloquées, enfin, etc. Donc, que ce soit Paris, sa région parisienne et certaines villes de province comme Bordeaux, Marseille, enfin, je ne les ai pas toutes en tête, mais en tout cas, on a bien parlé en global sur tout le territoire. Donc, il nous a été répondu que pour ce qui était des sédentaires, il y aurait du télétravail. Oui, alors donc, on a parlé des métros, des stations de métro qui étaient bloquées, fermées, des transports qui vont être blindés. On a demandé, comme certains salariés nous l'avaient demandé déjà, c'est à savoir est-ce qu'ils pourraient, pendant cette période-là, prendre des vélos pour pouvoir se déplacer plus facilement. Et j'ai surtout demandé, on a surtout demandé que ça soit prévu vraiment en amont et pas la veille, ou la semaine, ou le 15 jours avant. Déjà, surtout qu'il y a pas mal d'informations au niveau du site gouvernemental sur Internet, et que ça peut se prévoir, et qu'on ne se retrouve pas avec des techniciens qui soient en difficulté, avec des plannings qui ne correspondent pas à la réalité extérieure et qui, avec des rendez-vous qui soient galères. Enfin bon, bref, on a mis le point là-dessus et je pense que ça a été entendu.
Merci Sylvie. Le point suivant concernait une demande d'information sur les changements en cours au niveau de la mutuelle. Alors là, moi, je maîtrise qu'à moitié, donc je vais laisser Stéphane vous expliquer ça.
Donc, nous avions un point sur les mutuelles. Alors, pas la mutuelle pour les salariés, mais la mutuelle pour les conjoints de salariés. Ce point était venu parce que nous n'étions pas du tout avertis d'un éventuel changement. Faut dire que la direction n'avait pas été prévenue non plus au niveau du groupe. Et il s'avère que les conjoints changent non pas de gestionnaire, mais d'assureur. C'est-à-dire que de Allianz, nous allons passer sur AXA. Pourquoi ? Tout simplement parce que les consommations des conjoints par rapport aux cotisations encaissées sur le ancien contrat, eh ben, était pas favorable par rapport à l'assureur et concrètement, ben, il n'a pas désiré renouveler le contrat. Donc, ils ont dû trouver une autre assurance qui est maintenant, donc, comme je le disais, AXA. Cela s'accompagne forcément d'une augmentation, puisque de toute façon, les mutuelles ne vont pas en diminuant. Et nous étions très décalés par rapport au niveau qui était demandé dans les autres mutuelles par rapport aux mêmes prestations ou des prestations qui s'y approchent. Donc, il faut savoir qu'en fonction du taux que vous allez choisir de couverture et donc du niveau de remboursement, et de savoir si vous avez déjà, votre conjoint a déjà une mutuelle ou si c'est que la mutuelle, donc maintenant AXA, qui sera couverte, les tarifs peuvent augmenter considérablement, puisque si vous prenez la meilleure couverture pour une personne seule qui n'a pas de mutuelle, on passe à 129,83 € par mois. Donc ça veut dire que c'est quelque chose de conséquent, puisque pour un niveau similaire, on était à 82 ou 3, quelque chose comme ça, donc moins de 90 € sur l'ancien contrat. Mais comparaison faite avec d'autres prestataires, cela reste soit au même prix avec des prestations moindres, soit plus cher avec des prestations équivalentes. Donc dans l'absolu, ça reste performant par rapport au prix du marché, mais ça n'empêche que c'est une augmentation qui est très importante pour le budget, sachant que, ben, en règle générale, nos salaires n'augmentent pas. Nous avons à soulever un autre point par rapport au taux de prise en charge sur le contrat, lui, salarié. Nous sommes en train de faire des vérifications et on reviendra vers vous si on s'aperçoit que nous avions raison et que les prestations ont baissé tout en gardant le même tarif au niveau de la prestation donc mutuelle pour les salariés obligatoire au niveau du groupe. Voilà ce que je pouvais dire sur les mutuelles.
Merci Stéphane. Et enfin, dernier point à l'ordre du jour, c'était donc, comme annoncé pour l'ordre du jour précédent, c'était le contrat avec Glady donc, qui devait être validé ou non. Stéphane, tu t'en occupes ?
Pour faire suite à la réunion du mois de février, nous avions demandé à ce que la proposition commerciale qui nous avait été faite par Glady pour le renouvellement des 4 prochaines années du contrat, puisqu'on avait demandé à ce que ça ne soit pas résilié celui qui était en cours. Donc nous avons demandé tout simplement à ce qu'on le mette à l'ordre du jour et que le CSE se prononce sur une validation ou non de cette proposition commerciale. Donc comme je le disais tout à l'heure, la proposition qui a été faite était très importante financièrement, dans le sens où très intéressante, je veux dire. Pourquoi ? Parce que tout simplement était pris en compte notre ancienneté de partenariat avec eux. Et surtout, ils n'appliquaient pas en fait l'augmentation que nous aurions dû avoir par rapport à notre augmentation d'effectifs. Ils nous laissaient sur la même base tarifaire et ils nous permettaient d'avoir la remise sur les 4 prochaines années qui était faite par rapport à notre compte, donc à Protelco, de 50% sur leurs prestations. Ce qui veut dire qu'en termes de budget pour nous, par rapport aux éventuels concurrents qu'il pouvait y avoir, il ne nous a pas été possible de trouver une prestation davantage au tarif où elle nous est proposée chez un autre prestataire, ou que ce soit plus avantageux pour les finances du CSE et pour les finances des salariés. Donc concrètement, nous avons validé, à l'exception de 2 élus qui ont voté contre, mais l'ensemble des autres élus ont voté pour, de façon à reconduire ce contrat, puisque maintenant vous commencez à avoir un petit peu l'habitude avec Glady. Ça marche plutôt bien. Nous, comme je l'ai dit la dernière fois, nous allons nous améliorer dans la pédagogie d'utilisation du site, chose que nous n'avions pas été forcément très bons lors du précédent mandat, et en espérant que ça s'améliore et que vous soyez beaucoup mieux satisfait des prestations de Glady, puisque même si certains en ont profité, on n'utilise environ que 20% de ce qui est possible sur le site. Donc, ce qui est dommage, puisque c'est quelque chose que nous avons et que tout salarié peut en bénéficier, même celui qui vient d'arriver dans l'entreprise, puisque nous le rappelons, tout salarié de l'entreprise peut s'inscrire sur le site de Glady et bénéficier de leurs avantages. Seuls les avantages que nous auquel le CSE participe, en gros, quand on vous fait une remise sur le prix qui est affiché sur le site de Glady, où là, on demande à avoir 4 mois d'ancienneté, en gros, la période d'essai, elle doit être terminée. Et cette ancienneté est une ancienneté groupe. Donc, on ne prend plus en compte l'ancienneté Protelco. On prend vraiment l'ancienneté groupe. Donc, si vous venez d'une autre entité et que vous avez déjà vos 4 mois d'ancienneté, vous bénéficiez des abondements que peut faire le CSE sur les prestations ou les remboursements que l'on propose. Voilà ce que j'avais à dire sur la partie ASC Glady pour ce mois-ci.
Merci beaucoup, Stéphane. Et donc, il nous restait encore quelques points en réclamation. Donc, comme tout à l'heure, on va juste aborder deux d'entre eux qui nous tenaient un peu plus à cœur que les autres. Notamment, le premier donc, était un point que nous avions soumis concernant les remplacements dans les free proxy en cas d'absence. Nous avions pu souligner certains cas d'absence maladie, par exemple, qui durent depuis plusieurs années et qui ne sont pas remplacés. Des gens qui partent en formation pendant quelques jours ou plus d'une semaine, donc qui avertissent l'entreprise longtemps en avance et qui ne sont pas remplacés. Et donc, ce qui amène à des situations où mais des équipes se retrouvent en effectif réduit, à devoir faire beaucoup plus de travail, et donc avec une charge de travail bien supérieure à l'habitude, sans que aucun renfort ne leur soit accordé, et même quand il est demandé. Le point a été pris en compte par la direction qui nous a reparlé de la mise en place prochaine de cellules de renfort. Sauf que c'est une promesse qui nous est faite depuis maintenant plus d'un an et qui n'avance toujours pas. Donc voilà, pour nous, le point reste non traité aujourd'hui et c'est sur les salariés que repose la surcharge de travail quand un des collègues n'est pas là. Et c'est Sylvie, notamment, qui voulait aborder également un deuxième point concernant les techniciens isolés.
Oui, Luc, en fait, il s'agissait de techniciens qui sont rattachés à la cellule IT, qui se retrouvent un petit peu seuls, enfin, en tout cas, qui ont un sentiment de non-appartenance un petit peu à l'entreprise, dans la mesure où tous leurs collègues autour ont été rattachés à des free proxy et qui se retrouvent donc tout seuls. Ils ont pu... ils ont pas de formation, on prend pas contact avec eux, ils se sentent vraiment isolés et ça a été pris en compte par la direction qui effectivement, enfin les RH en tout cas, ont bien pris le point pour que justement ils soient qu'ils aient pas ce sentiment d'isolement et de non-appartenance à l'entreprise. C'est un sentiment assez un malaise qui règne pour certains d'entre eux qui sont sur des zones vraiment, ils sont tout seuls, ils ont plus de contact avec leurs collègues puisqu'ils sont, ils ont été rattachés au free proxy et ils ont plus de réunions, ils ont plus, quand il y a quelque chose qui va pas, c'est, enfin, le changement de téléphone, la carte pro qui est périmée, tout ça, c'est à eux d'aller vers leur responsable, personne ne vient vers eux, alors ils se demandent ce qui se passe. Bref, ça a bien été pris en compte par les RH et ils vont mettre en place au moins une réunion en physique, au moins dans une année, qu'il y en ait au moins une, et des petites réunions en visio pour que justement il y ait toujours cet échange et que ça aille mieux pour eux. C'était important que ça soit signalé parce que on a eu des salariés qui sont revenus vers nous et voilà, c'est important pour eux et c'est important parce qu'on est, enfin, tous partie de la même entreprise, à savoir Protelco.
Merci Sylvie. Voilà qui conclut cette deuxième réunion CSE et ce Protelcast. Je vous informe également que nous avons en cours plusieurs négociations, une qui est déjà terminée sur notre accord handicap, qui est toujours en cours, donc sur l'égalité professionnelle et la qualité de vie au travail, et une sur les moyens accordés aux élus CSE et aux organisations syndicales. C'est des négociations qui sont toujours en cours et pour pas alourdir ce Protelcast, on va pas rentrer dans le détail pour l'instant, on vous fera un épisode spécial une fois que ces négociations seront terminées. Je vais maintenant pouvoir vous dire au revoir, au revoir Romain.
Et bonne journée à tous, au revoir et bon courage pour la suite.
Au revoir Stéphane.
Bonne fin de journée et bon courage.
Et Sylvie, à bientôt.
À bientôt. Alors, nous sommes jeudi. Normalement, le prochain week-end, c'est le week-end de Pâques. Donc je vais vous souhaiter une joyeuse Pâques en avance. Et puis portez-vous bien et à très vite.
Eh bien, merci beaucoup à vous trois. Très bonne journée à vous et à bientôt.